La 10e édition d'Actoral, Festival des arts et des écritures contemporaines, propose lecture, mise en espace, performance, rencontre d'auteurs, et ce jusqu'au 13 octobre 2010. Dans le cadre de cette programmation, Grenouille vous donne 4 rendez-vous sur l'antenne D3.8 à la découverte d'auteurs contemporains. Second de ces rendez-vous aujourd'hui avec Dieudonné Nyanguna, auteur, metteur en scène et comédien, qui donnait à entendre des extraits d'un texte encore inédit intitulé « Le socle des vertiges ».
Socle des vertiges. 1. Une réserve à protéger. Glock à la lumière. Espèce à part. Arrivent les années 90. Nous, Mouléké. Petite bourgade. Derrière la chaumière de la boulangerie Bouetambongo. Où s'arrête l'arrondissement 4 de Brazza-la-Verte. Les loupards qui y tiennent viennent jouer les petites frappes chez nous. Le dernier chaudron de la ville nord. Sinoche porte ouverte qui garantit les combats dans nos rues comme jamais existé n'a su s'expliquer. Belle entrée côté Grabuche où ratonitruon, poussière de soleil, remugle de chair sauvage, le quartier des crâneurs. Petite colline perdue au regard inquisiteur de la civilisation. Nous, matinée sans billets, nirvana de violence, amour à la louche, paradis monotone. C'est fini d'un aujourd'hui. La différence ne nous cherche pas quand on est île de terre. Au départ, on était comme des sandales. Fallait se coucher. Et comme nous avons un forfait de merci, nous y allons de bon cœur jusqu'à ce que ça m'énuise le jour pour pleurer dans nos tanières.
Dieudonné Nyanguna, bonjour.
Bonjour.
Avec votre frère Chris. Bonjour Chris.
Bonjour.
Vous sortez à l'instant de la scène du Théâtre de la Criée où vous donniez à entendre un texte, Le socle des vertiges, dans le cadre de la 10e édition d'Actoral. Je vous propose qu'on reparle un petit peu de ce texte dans un instant, mais pour mieux vous connaître, quelques mots d'abord sur votre parcours. Dans les années 90, vous êtes à Brazzaville, au Congo, et c'est dans un contexte politique extrêmement troublé et violent que vous développez une pratique théâtrale et même que vous créez une compagnie en 1997 avec votre frère Chris. Cette compagnie s'appelle Les Bruits de la rue. Alors quel sens avait pour vous cette nécessité d'écrire et de jouer dans ce contexte mortifère? C'était une planche de salut? C'était une manière de protester?
Non, c'était une manière de continuer la vie, de imposer un geste artistique à un endroit où tout est en train d'être détruit, est une forme d'espoir à la vie et à continuer la réflexion et l'émanation de différentes formes d'espérance, je crois. Et parce que si tout le monde, on croise les bras et on se met à croire à la guerre, j'ai bien de la peine à croire qu'on va s'en sortir. Mais si à côté et pendant et tout autour et pendant encore et dans, on se met à faire quelque chose d'autre qui a complètement une relation viable dans évidemment le quotidien de l'être humain, je crois qu'à partir de cet endroit-là, la parole du poète et le geste de l'artiste trouve évidemment un sens beaucoup plus grand que celui que nous nous arrêtons de donner au plateau, mais qui devient vraiment un geste très humain.
Christian Gouna, comment vous partagez le travail avec votre frère dans cette compagnie?
C'est-à-dire, je parlerai déjà d'une complicité qui nous vient peut-être simplement du fait d'avoir grandi ensemble, de se fréquenter, du fait aussi que l'écriture de Dieudonné, moi, me touche aussi beaucoup à un endroit où soit il me raconte, c'est-à-dire me raconter pas forcément moi, mais à travers plein de textes où il raconte des choses sur lesquelles nous ne posons pas les yeux dans notre brasa commun, dans notre façon de vivre, dans les relations humaines, en temps de guerre, quand nous montions la compagnie, et aussi en temps de paix ou de vie plus ou moins normale. Et aussi, après, il y a tout le parcours théâtral qu'on a eu, qu'il ne faut pas mettre à côté, parce qu'avant de monter la compagnie, nous avons travaillé régulièrement avec Dido, je pense, dans plein dans beaucoup de compagnies de Brazzaville. Là, on était tous les deux acteurs jusqu'au jour où on sort de la guerre et pensant qu'on pouvait peut-être, j'aime bien, peut-être voler de nos propres ailes, ben, nous avons monté cette compagnie pour mettre en place notre vision du théâtre, essayer un peu de s'écarter des, j'ai pas envie de dire sentiers battus, mais essayer de trouver autre chose que ce qui se faisait à Brazzaville. Et l'écriture de Dieudonné s'y prêtait bien. C'était du neuf, c'était extravagant, c'était du tape à l'œil, mais en même temps, on avait besoin, mais je dis bien besoin, surtout en cette période de guerre où on crée notre compagnie, parce que quand on la crée, on commence par un texte de Dieudonné. Et je pense que par rapport à ce qu'il a dit, en cette période de trouble, humainement, même pour nous, pour vivre, nous avons besoin, je pense, de cette carapace-là, de plonger dans un autre univers.
Dieudonné Nyanguna du neuf et un peu tape à l'œil. Votre frère ne vous rate pas, vous êtes d'accord avec ça?
Vous savez, tous les jugements qu'on pose sur mon écriture, je suis toujours pour, à commencer par le contraire. Pour la simple raison que moi, je ne dois pas juger mon écriture, je dois simplement écrire. Et c'est aux autres de la juger, c'est aux autres de la critiquer, c'est aux autres de la commenter, parce que c'est elles qui vont la raconter aux autres. Je réponds plus, sachant que quand on parle, on est déjà en train de faire entendre quelque chose, mais quand on entend quelque chose, on est déjà en train de parler la langue qu'on est en train d'écouter.
Imagine, 342 000 km² de manque de perspective. Moins de 3 millions d'âmes fabriquées tour à tour par les colons, les néocolonialistes, les révolutionnaires, les contre-révolutionnaires, les valets de l'impérialisme, les yankistes, les pro-bureaucrates, les utopistes, les capitalistes, les généraux, les démocrates affamés, les sensationnistes, les bourgeois arrivistes, les chinois. Bricolés par nous-mêmes, c'est-à-dire personne d'entre nous n'y était. 3 millions d'opérateurs de la trouille pris en otage par la Gabégie. Et comment donc ? Tout avait mal commencé quand un aventurier nommé portugais Diego Cao découvre l'embouchure du Congo en 1482, puis le 26 septembre de l'année prochaine, 1885 donc, une écurie de gangsters décide à Berlin que le Congo devienne une colonie française. On le morcelle comme un saucisson et de là est mortifié le pourquoi de la semaine d'après, c'est-à-dire le 15 août 1960, quand il nous prête l'indépendance en échange d'un néocolonialiste nègre à la tête du pays et vendu au prix d'une boîte de sardines. Putain, mais qu'est-ce qu'on a tabassé révolutionnairement pour inviter marxisme-léninisme deux jours après, le 31 décembre 1969. Tu parles que ça fait plaisir aux gardes Berlin dès qu'ils l'ont appris, carrément, puisque le pays, ils nous l'ont prêté, mais pas donné. Faut pas déconner avec les ustensiles qu'on vous donne par des changements trop hâtifs, disait le roi des Flamands. Ils se sont retrouvés en colère à Bol, et le parrain de la mafia a dit, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre, il y en a des marres, foutez-moi la démocratie dans toute l'Afrique, immédiatement, tout de suite, à partir de cette fois-ci, et maintenant, vite, exécution, application au boulot, bande de retardataires, et qu'on ne vous y reprenne plus en train de monter des coups d'État et de boutiquer des partis uniques à la solde du tribalisme, régionalisme, xénophobique et diamantifère. En route pour le développement plus enfoiré, plan quinquennal, grands travaux, développement durable, démocratie participative, autosuffisance alimentaire et technologique en un tour de main et à la fois tout ça, le temps n'est plus à perdre. Oui, il faut traverser de la pirogue à la webcam. Qu'est-ce que vous croyez qu'on est venu chercher en Afrique? La pierre taillée, maniez-vous les hormones et les merde, ceux qui ne sont pas aptes, allez, oust. Éternellement récalcitrants ces gens. Ils se plaignent, on change. Ils se plaignent, on les change. Ils se plaignent, on les échange. Ils se plaignent, on change de faire qu'on les échange. Ils se plaignent, on change ce qu'on a changé. Ils se plaignent, ils se plaignent, ils se qu'on les change. Ils se qu'on change pas assez alors qu'on change. Ils se on change, on a changé le changement. Ils le changer a changé, mais ils se plaignent, on change, on change, on change, on change et ils ne s'adaptent jamais. Et pourtant nous on s'adapte à leurs plaintes et on change chaque fois qu'ils se plaignent. Et on n'arrête pas de changer quand ils se plaignent. Et eux, ils se bordent.
Vous Vous êtes Dieudonné Nyonguna, à la fois comédien, metteur en scène, auteur de vos spectacles. La colère d'Afrique, Bye Bye, Carré Blanc, Attitude Clando, autant de pièces plutôt bien et même très bien accueillies par la critique et par les institutions théâtrales aussi, à la Comédie Française ou au Festival d'Avignon. Est-ce que vous ne craignez pas que ce succès, auprès des institutions notamment, vous institutionnalise un peu et vous isole un peu de cette rue dont vous êtes le porte-parole ?
La question elle est très intéressante. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, il ne faut jamais oublier d'où on vient. C'est la première des choses. Et surtout ne pas oublier où on est. Et ça, c'est très important. Parce que si jamais on oublie d'où on sort, c'est un grand problème. Et si on oublie qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est aussi un vrai problème. Moi, je sais pourquoi je fais du théâtre. Et quand j'écris, je sais pourquoi je place tel mot. Et si je joue à un endroit, je sais pourquoi je joue à cet endroit-là. Mais ce n'est pas du tout l'endroit qui m'intéresse. L'endroit qui m'intéresse, moi, c'est l'endroit des gens. C'est-à-dire, les gens vont venir écouter cette parole-là. Que ça soit dans... entre quatre murs bourgeois ou que ce soit dans un taudis, pour moi c'est pareil, c'est pas la forme architecturale de la chose qui va donner une valeur beaucoup plus profonde à ce que je vais dire. Mais c'est beaucoup plus parce que je vais rencontrer des gens et que je vais leur communiquer une parole avec laquelle on va discuter. Je crois que c'est la seule chose qui m'intéresse. Et d'ailleurs, le fait de la reconnaissance, c'est quelque chose qui me fait souvent rigoler parce que je dis, mais on reconnaît quoi ? L'homme ou l'écriture ? On dit, bah, on reconnaît l'écriture, mais à quel endroit on la reconnaît ? Bah, à l'endroit où on l'a accepté, qu'on a dit que c'est un auteur, mais ça n'a pas de sens. La seule chose qu'il faut accepter ou ne pas accepter, c'est ce qui est dit.
Oui, le pionnier est rassembleur et unificateur. Article 9, le pionnier s'emmerde seul dans son coin. Article 10, le pionnier est un vieux con qui pourrira seul, de solitude en plus, dans son placard imbécile. Espèce de régressiste va. UGC, production, discipline, fusil, seul, la lutte libère. MNP, Mouvement National des Pionniers. À l'aise, pionniers, servir, saluant, fixe. Impérialisme, colonialisme, néocolonialisme, à bas. Gloire, victoire, au peuple. Pour le drapeau rouge, nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons. Pour le drapeau rouge, nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons. Seul, la lutte libère. Le pouvoir est au bout du fusil. Avec nous et parmi nous, les héros du peuple sont présents. Le camarade Karl Marx est présent. Le camarade Lénine est présent. Le camarade Che Guevara est présent. Le camarade Lumumba est présent. Le drapeau rouge. Attention pour la bandée des couleurs. Prêt, envoyé. Jeunesse, comme une balle en avant. Réunis autour de toi les enfants du pays. Marche souveraine. Jeunes, donnez vos mains. Vaillants, pionniers, nous bâtirons, nous irons. Comme une balle sortie du canon. En avant. Porte droit, oh, marche souveraine, lève ta tête, nous n'avons qu'un seul chemin, réveillez les peuples endormis, vaillants d'une vive voix, en avant, brandis le flambeau, pionnier, nous veillerons, debout, nous irons, en avant, au cœur du monde, par le soufre et le canon, nous n'avons qu'un seul chemin, d'une vive voix, pionnier, nous bâtirons, contre les Yankees, la victoire nous appartient, réunis autour de toi, brandissez le flambeau, celui de notre avenir, aux fiers et jeunes pionniers, notre cher beau pays, nous affirmons. Nous n'avons qu'un seul chemin. Unissons-nous en cette lutte. Et sur le drapeau, pionniers, nous servirons contre les Yankees. Nous irons chanter victoire, très certainement la victoire de tes trois glorieuses journées. La société, jeunes, donnez vos mains. Amen, amen, amen. Amitié, nous vaincrons. Ne remettez pas à demain. En avant, pionniers, pour semer la joie.
Parlons un petit peu du socle des vertiges, ce texte que vous êtes venu présenter ici dans le cadre de cette 10e édition d'Actoral. C'est à la fois une fiction et en même temps une fresque politique, on pourrait dire. Une fiction qui est traversée d'amour et de fraternité. Un amour qui est traversé de déchirures qui apparaissent, des déchirures qui ont pour nom territoire, identité, appartenance, modernité. Il y a quelque chose d'un peu non-futur quand même dans ce texte.
Oui, c'est complètement dit, c'est non-futur.
Dieudonné Nyonguna.
Le futur, il n'existe pas, tout comme le passé n'existe pas. Le passé, il est raconté, il n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est le présent. Donc s'il faut essayer, ou même pas, de croire à un futur, bah, il faut le créer. Et ce n'est pas le futur qui crée le futur, c'est le présent qui crée le futur. Donc la seule chose qui existe, c'est le présent. C'est le présent qui fait à ce qu'un demain soit. Ou c'est le présent qui fait de telle manière que demain ne soit pas. Et donc, par rapport à tout ce que traite le socle de vertige à cet endroit-là, c'est une manière de raconter l'assassinat que nous avons tous eu à commettre sur demain. On a tué demain. Mais ça ne veut pas dire que demain ne sera pas. Peut-être il sera, mais si on le crée aujourd'hui. Parce que pour le moment, on l'a tué. Ça sert un peu de parler des forêts brûlées en Afrique, des eaux polluées. Là, il n'y a pas longtemps, on parlait encore dans le golfe du Guinée. Tous les hommes sont devenus stériles parce qu'on avait jeté des déchets là-bas, toxiques, tout. Voilà. Ça s'est complètement tué demain. Donc, ça ne sert même pas. Le tableau africain, c'est tout ce qui se passe, le tableau est déjà assez sombre. Ça veut dire que ça ne sert pas de croire à un demain, c'est une forme d'utopie de croire à un demain. Je crois qu'il faut le fabriquer. S'il faut le fabriquer, c'est maintenant. On ne peut pas dire que demain le fabrique. Non, parce que demain n'existe plus pour le moment.
Mais de quoi tu parles? Tout le monde me tape dessus. Pareil que les mauvais rois d'Afrique qui, pendant des millénaires, ont toujours eu à leurs bottes des sages, des artistes et des artisans qui le fabriquaient et qui fabriquaient à leur guise des légendes et fables pour contrôler la pensée de leurs sujets et les emmener dans une forme de catéchisation traditionnelle à endormir les royaumes entiers des siècles et des millénaires pendant que la grosse machine impériale exploitait le peuple des siècles et des siècles. Amen. Ta gueule! Mais on est quand même assez con pour continuer à croire que c'est des légendes qui veulent dire quelque chose.
Dans ce texte, Le Socle des Vertiges, vous moquez considérablement la langue des politiques. Cette langue qui est aujourd'hui en train de devenir une langue morte, finalement, mais vous la redonnez, vous la transformez et vous en faites une langue vivante avec beaucoup d'humour. Vous pensez qu'il faudrait aujourd'hui inventer de nouveaux mots en politique, que par exemple, identité ou appartenance, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui?
Je suis d'accord avec vous parce que déjà le mot identité me cause un problème pour la simple raison déjà qu'on n'a pas une identité, on est une somme d'identités perplexes complètement, on n'est pas une identité. Alors, tel que je suis là debout, je m'appelle Dieu de Nanyanguna, mais il n'y a pas que moi qui suis debout là. C'est je sais pas, des millions d'années, c'est des milliards de kilomètres de distance, de paysages, de langues qui se sont croisés pour que je sois là assis et moi je suis la somme de tout ça. Et je ne suis pas une chose. Je suis juste une caisse de résonance à l'intérieur de laquelle il y a beaucoup de voix, il y a beaucoup d'années, il y a beaucoup de visages, il y a beaucoup de cultures, il y a beaucoup de langues, il y a beaucoup des choses que j'ai mangées, que j'ai vues, c'est-à-dire tout ce qui crée ma matière physique et biologique et sensitif.
Le Socle des Vertiges est édité depuis très récemment chez Vendailleur.
Non, il n'est plus édité. Il devrait être édité, mais j'ai fait attendre la collection que dirige Jean-Luc Raimanana à Vendailleur parce que j'étais en train de réécrire du coup l'adaptation théâtrale qu'on a pu lire parce qu'au départ, ça devrait être un roman, puis qui a fini dans une forme théâtrale de parole. Dans une forme de théâtre de parole. Et donc, à cet endroit-là, je crois que maintenant que l'adaptation est finie, alors je peux réentamer encore les discussions avec Jean-Luc Raimanana pour le publier l'année prochaine.
Ici, dans le cadre d'Actoral, on a entendu une lecture, vous-même et puis votre frère Chris, une première version de ce texte, un texte qui est destiné à être mis en scène dans sa forme complète, je crois en 2011, probablement au Théâtre de l'Unité, à Limoges. Qu'est-ce que le travail scénique va apporter à ce texte, selon vous?
Tout ce qui ne peut pas être donné par les mots. Là où s'arrêtent les mots serait l'image. Là où s'arrêtent les mots. Parce que les mots ont une force et assez impressionnante, mais en même temps, les mots sont déjà morts une fois qu'on les a prononcés. Et les mots, avant même qu'on les ait écrits, ils sont d'abord morts. Et on les couche sur du papier et un livre, c'est une chose morte. On les prononce, ils prennent vie à l'instant où on les prononce, mais une fois que le silence arrive, ils sont morts encore. Et juste après, ils n'existent plus. Mais par contre, je crois que dire des mots, c'est être simplement à cet endroit de faire exister quelque chose en un seul lieu, à un seul moment, en une seule fois. L'avantage avec le jeu théâtral, c'est que le théâtre, aussi éphémère qu'il soit comme art, mais il arrive à l'inscrire simplement grâce à un certain nombre d'atouts, décors, costumes et tout ce qu'il faut. Il arrive à inscrire la parole dans quelque chose qui n'est pas seulement image, mais quelque chose qui reste comme vision dans la tête des spectateurs, pas seulement comme mot. Donc évidemment, pour le travail de mise en scène, c'est vraiment travailler à cet endroit où les mots ne peuvent pas aller, ou les mots après qu'ils soient morts, ou les mots avant qu'ils viennent à cet endroit-là, à ce moment-là. Donc créer en même temps cette distance entre la parole et le geste.
Chris Nyanguna, Dieudonné Nyanguna, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Prochain rendez-vous autour de la 10e édition d'Actoral, c'est le 1er octobre à 11h30 et nous serons en compagnie de l'auteur Marine Richard. D'ici là, l'ensemble de la programmation d'Actoral, Festival des écritures contemporaines, est sur le site www.actoral.org. Oh.